crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Des personnes qui arrivent d'Afrique, des personnes qui arrivent des Balkans, et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
J'ai marqué.
Bah, un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.
Bonjour à toutes et à tous. Dans À vous les Burgiens, aujourd'hui, on va parler de l'accès aux soins et de l'efficacité de nos services de secours. Avec nous en direct, Didier Pourré, le médecin-chef du SDIS de l'Ain, le service départemental d'incendie et de secours, autrement dit les pompiers. Il vient nous expliquer deux nouveautés de 2020 pour une meilleure efficacité des services de secours dans le département, le QR code sécurité bâtiment et la convention signée entre l'ARS, le SAMU et le SDIS. En deuxième partie, la lecture, un passe-temps essentiel pour l'apprentissage des enfants, mais qui est de moins en moins pratiqué. Les autres divertissements comme Internet ou la télévision sont les grands favoris des jeunes. Pour mieux comprendre les éventuels dangers de cette exposition aux écrans, Stéphanie Yanouzi, neuropsychologue, répond à nos questions. Nous irons aussi au collège Moranda à Saint-Denis-les-Bourgs pour parler d'une pause lecture obligatoire qui est organisée pour les élèves.
Radio B.
Depuis 2020, le SDIS de l'Ain innove sur deux aspects. Il a signé une convention avec le SAMU et l'Agence régionale de santé pour que les infirmiers soient présents dans certaines interventions. Une autre innovation suivie au niveau national, le QR code sécurité bâtiment. Élaboré avec des architectes, des bailleurs sociaux ou encore des chefs d'entreprise, il permet d'aider les pompiers à s'adapter au lieu de leur intervention. Avec nous en studio, le médecin-chef des sapeurs-pompiers, Didier Pourré. Bonjour.
Bonjour.
Alors, une convention entre le SDIS, donc les pompiers, le SAMU et l'ARS a été signée fin décembre pour que certaines interventions se fassent avec des infirmiers sapeurs-pompiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est leur rôle ?
Alors, les infirmiers sapeurs-pompiers font partie du service de santé et de secours médical du SDIS. Ce sont pour la plupart des infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, comme la plupart des pompiers. Nous avons 4 infirmiers professionnels au SDIS de l'Ain et les 100 autres sont des infirmiers volontaires. Donc ce sont des infirmiers professionnels de santé qui travaillent soit à l'hôpital, soit dans leur cabinet libéral, soit en EHPAD ou dans d'autres structures, qui donnent du temps, comme tout pompier volontaire, pour secourir les personnes et bien sûr dans leur spécialité qui est celle d'infirmier, donc pour porter des soins et des soins de haute technicité, puisqu'ils travaillent grâce à des protocoles de soins d'urgence.
Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ces protocoles ? Ça consiste en quoi ? En quoi ils peuvent intervenir pour soigner des gens ?
Donc les protocoles de soins d'urgence, ce sont des prescriptions anticipées par les médecins du service pour faire face à des situations particulières, par exemple l'arrêt cardio-respiratoire ou l'infirmier de sapeur-pompier, quand il n'y a pas de médecin sur place, va pouvoir faire plus que le secouriste en allant jusqu'à injecter des médicaments comme l'adrénaline. Ou alors, ça peut être pour la prise en charge de la douleur avec des morphiniques. Ça peut être aussi pour les douleurs thoraciques, avec faire l'électrocardiogramme qui est télétransmis au SAMU, et ensuite l'administration de médicaments avant d'être que la personne ne soit emmenée à l'hôpital.
Est-ce que vous pouvez nous parler d'une intervention, d'un exemple d'intervention où un infirmier pourrait agir en fait ? Comment ça se passe ?
Alors, ce qui se passe, c'est que les infirmiers sapeurs-pompiers, comme tous les pompiers volontaires, sont de partout sur le territoire du département, ce qui est la force des sapeurs-pompiers, c'est le maillage territorial. Et donc, ces infirmiers vont être déclenchés dès l'alerte, quand ils sont disponibles, dès l'alerte, pour appuyer l'équipe de secours sapeurs-pompiers. Et l'infirmier va arriver, par exemple sur un arrêt cardiaque, les pompiers vont faire le massage cardiaque, vont poser le défibrillateur semi-automatique, l'infirmier pendant ce temps va poser la voie veineuse qui permet l'administration des médicaments, et si c'est nécessaire, va administrer l'adrénaline. Et puis bien sûr, en parallèle, le SAMU aura déclenché l'équipe du SMUR qui viendra sur les lieux et qui, elle, pourra avoir un peu plus de route dans certaines circonstances et arriver dans un second temps pour enchaîner les gestes médicaux nécessaires. Et comme ça, on est dans toute une chaîne de secours qui permet les meilleures chances de survie à la victime secourue.
Et donc l'infirmier, par exemple, il se retrouve dans ce cas d'un arrêt cardiaque, il peut mettre donc les médicaments, injecter les médicaments, il doit attendre l'aval d'un médecin ?
Alors, il peut directement injecter les médicaments parce que cet infirmier a été formé pour le faire, c'est-à-dire qu'il a été formé pour reconnaître des situations et injecter et faire ce qu'il y a à faire tout de suite dans ces situations d'urgence. Bien sûr, ensuite, il s'en réfère au médecin régulateur du SAMU, mais dans un premier temps, il peut déjà avoir effectué tout un tas de gestes qui n'aurait pas été fait par les secouristes. Par exemple, lors d'une crise d'allergie importante, un choc allergique, ben il va injecter lui, là aussi l'adrénaline tout de suite avant d'en référer au SAMU pour pouvoir agir vite sur ce qui tue ou ce qui est très dangereux pour les patients.
Donc cette convention, en quoi elle apporte une nouveauté ? Parce que je suppose que ces sapeurs-pompiers-infirmiers agissaient déjà avant dans ces cas-là ?
Alors, les protocoles de soins d'urgence infirmiers, ils ont débuté dans les années 2000 et on les a développés. Et donc maintenant, on a une expérience d'une presque une vingtaine d'années sur l'utilisation de ces protocoles. On avait déjà créé dans l'Ain une garde postée sur Montluel, qui, parce que c'est un bassin de population avec pas mal d'interventions. Et puis là, on a déployé la garde postée sur le secteur de Bellegarde sur Valserine, qui est un secteur à plus de 30 minutes des services d'urgence. Et donc, la présence de l'infirmier est une plus-value pour les victimes, même si le bassin de population est un peu plus faible qu'à Montluel.
Est-ce que vous pouvez nous décrire donc ce secteur qui est... Donc la convention, elle parle que de ce secteur ?
Alors la convention parle que de ce secteur parce que dans l'Ain, les ont été identifiés peu de secteurs à plus de 30 minutes des SMUR. Donc nous avons ce secteur de Bellegarde, le secteur du Pays de Gex, le secteur d'Hauteville, mais qu'il faut corréler au bassin de population. Et donc pour l'instant, on s'est lancé sur le secteur du Pays de Bellegarde pour cette expérimentation avec l'ARS.
Et donc est-ce que ça ne fait pas trop de charge de travail pour le SDIS parce que vous devez mettre les infirmiers sur le terrain ?
Alors c'est pas simple, en effet, c'est pas simple puisque comme je vous l'ai dit, notre effectif est composé d'infirmiers volontaires pour la plupart, et donc ça correspond à leur disponibilité. Donc on essaye de couvrir la journée, 365 jours par an avec cette garde postée, avec une trentaine d'infirmiers qui viennent prendre de la garde postée en fonction de leur disponibilité. Aujourd'hui, on couvre 80% des 365 jours.
Donc... Comment vous allez vous organiser ? Est-ce que l'organisation est difficile pour essayer de mettre en place ces infirmiers au bon moment, au bon endroit ?
Alors, on sollicite tous nos infirmiers pompiers. Alors, bien sûr, ceux qui sont sur Bellegarde, mais on vient aussi chercher nos infirmiers qui sont sur le bassin beurgien, nos infirmiers qui sont dans le nord de la Bresse, ceux qui sont sur Pondin, et puis on leur demande d'aller prendre la garde postée à Bellegarde, ce qu'ils font volontiers, parce que d'aller prendre la garde postée, ben c'est vivre au sein du centre de secours, c'est participer aux interventions, être sûr de faire de l'intervention pendant leur temps de disponibilité. Donc c'est aussi intéressant.
Et est-ce que ce n'est pas un peu essayer de régler un problème mais qui viendrait plus des moyens du SAMU parce que c'est le SAMU qui n'est pas peut-être pas assez nombreux ou pas assez présent sur le territoire pour soigner les gens ?
Alors en fait, le SAMU est présent sur le territoire pour soigner les gens. Par contre, il arrive de temps en temps qu'il y ait qu'il y ait des interventions multiples au même moment. Donc les SMUR vont venir de plus loin dans ces cas-là. Donc il y a ces situations qui existent, et puis il y a des endroits où on est à 30, 35 minutes, 40 minutes du SMUR, mais c'est comme ça, et il faut qu'on trouve des solutions innovantes qui permettent d'apporter les soins à la population, y compris dans ces zones un peu plus éloignées.
Donc d'ailleurs, dans le département, la plupart des communautés de communes sont en dessous de la moyenne française de 8,9 médecins pour 10 000 habitants. On compte notamment 8,6 médecins pour 10 000 habitants sur le bassin de Bourg-en-Bresse. Et le chiffre passe à 5,5 médecins pour le pays belgardien, proche de la Suisse. Et ils sont donc aussi, comme vous l'avez dit, à plus de 30 minutes d'un service d'urgence et de réanimation, le SMUR. Est-ce que avec cette convention, les habitants de ce secteur auront une sorte de meilleur accès aux soins?
Alors, ils auront bien sûr un meilleur accès aux soins d'urgence, hein, puisque l'intervention de l'infirmier est une plus-value dans l'attente de l'arrivée du SMUR. L'infirmier ne remplace pas le SMUR quand le SMUR est nécessaire, mais c'est une plus-value dans l'attente de l'arrivée du SMUR. Bien sûr, tout ça, c'est coordonné, c'est fait avec le SAMU. Et dans l'Ain, on a la chance d'avoir une plateforme commune entre SAMU et SDIS qui nous permet de traiter au mieux les appels des victimes et des personnes qui alertent les secours.
Et donc, le but concret de cette convention, vous direz que c'est quoi?
Alors pour moi, le but de cette convention, c'est que, alors que ça fait des années qu'on travaille la main dans la main avec le SAMU, avec les infirmiers-pompiers, ce qui n'est pas le cas partout en France, puisque dans certains départements, les infirmiers-pompiers ne sont pas reconnus, y compris par le SAMU, alors que dans l'Ain, on travaille la main dans la main. Pour moi, l'intérêt premier de cette convention, c'est cette reconnaissance par l'ARS qu'on puisse fonder une politique de santé sur un territoire avec l'appui des services d'incendie et de secours et de leurs services de santé, et donc des infirmiers-pompiers. Ça, c'est la première chose. Puis, bien sûr, la participation aux frais de ce travail est bien sûr intéressant pour le SDIS, qui met des moyens financiers pour des missions qui sont aussi celles de la santé.
Donc ces moyens financiers, donc c'est l'ARS qui va vous les donner.
Donc oui, l'ARS participe aux frais jusqu'à concurrence de 70 000 euros par an, qui est une participation aux frais qui ne couvre pas l'ensemble des frais, mais qui est une bonne participation aux frais.
Et ils vont servir à quoi ces 70 000 euros?
Ah ben, ils sont investis dans cette action.
C'est-à-dire
C'est-à-dire le matériel, hein, la formation des infirmiers, leurs indemnisations de volontaires, la pharmacie, puisque bien sûr le SDIS fournit les médicaments nécessaires grâce à sa pharmacie. Voilà.
Et est-ce que les infirmiers sapeurs-pompiers auront une indemnité un peu plus forte que les sapeurs-pompiers?
Non, ça reste l'indemnité de sapeurs-pompiers volontaires au grade d'infirmier.
Est-ce que, donc là, on a parlé de cette première innovation, est-ce que vous pouvez maintenant nous parler donc de ce QR code sécurité bâtiment, donc pour la première fois testé en France? En gros, ce QR code, il sert à quoi?
Alors le QR code, c'est un QR code, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le QR code? Ce sont les plans des bâtiments dans lesquels le pompier va devoir intervenir en cas d'incendie. Donc le QR code est apposé sur la porte du bâtiment. Alors que ça soit une industrie, que ça soit un bailleur social, le QR code est apposé à la porte, et quand les secours sont déclenchés, arrivent à ce bâtiment pour un incendie par exemple, en flashant le QR code, le pompier va avoir accès au plan du bâtiment, aux arrivées gaz, aux arrivées électriques et bien sûr à la disposition des pièces, des ouvrants, etc. Donc c'est très intéressant pour qu'il puisse créer son idée de manœuvre face au sinistre qui est en cours.
Vous pensez que ce genre de QR code, ces informations précieuses, ça peut faire gagner beaucoup de temps pour un pompier ?
Oui, ça peut faire gagner beaucoup de temps. C'est des éléments de sécurité aussi, à la fois pour les personnes qui se trouveraient dans le bâtiment, à la fois pour les pompiers. Donc c'est une excellente idée.
Donc pourquoi il a été créé ce QR code ?
Alors pourquoi il a été créé ? C'est pour gagner du temps sur les interventions. Et donc au mieux préserver à la fois les personnes et les biens. Puisque c'est la mission, préservation des personnes et des biens, donc évacuer les personnes, donc il faut savoir où elles se trouvent, comment on y accède, donc quand on a les plans c'est beaucoup plus facile que quand on est à l'extérieur du bâtiment et qu'on le regarde, de la même façon que pour prévoir les moyens de lutte contre l'incendie et donc pouvoir comme ça préserver plus du bâtiment. L'idée est venue lors des rencontres avec la Chambre de commerce et de l'industrie et lors du congrès national il y a 2 ans qui s'était passé à Bourg-en-Bresse, et donc l'idée a germé à ce moment-là.
Donc cet outil, est-ce que vous l'avez déjà testé ?
Alors cet outil qu'on a mis en place sur un des immeubles qui dépend de la CCI est un prototype quand on l'a testé. Maintenant, il faut qu'il diffuse, il marche, on a constaté qu'il fonctionnait. Maintenant, il faut qu'il diffuse et que derrière, les plans soient mis et que les QR codes soient posés sur les entreprises, sur les bâtiments qui reçoivent du public ou les bâtiments des bailleurs sociaux. Et nous avons pas mal de contacts des entreprises depuis ce lancement tout récent.
Donc ça dépend des entreprises, des bailleurs sociaux, de faire la démarche pour avoir ce QR code, en fait.
Tout à fait, et bien sûr, nous sommes à leur disposition pour leur donner tous les renseignements nécessaires.
Donc moi, si je suis un particulier, si je veux protéger ma maison, j'ai le droit de vous demander
Forcément. Après, c'est la complexité des maisons individuelles d'habitation est moindre, mais pourquoi pas, en effet, les apposer de partout.
Donc on a vu que c'était le temps qui était le plus important pour les pompiers, le temps d'intervention pour sauver des vies ou des bâtiments. En gros, grâce à ces 2 outils, vous gagnez du temps. Mais qu'est-ce que ça change en fait si vous perdez 1-2 minutes, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ?
Ah ben, beaucoup de conséquences, puisque on parlait, alors étant médecin, j'en reparle, de l'arrêt cardiaque. On sait très bien que la perte de temps sur l'arrêt cardiaque, c'est ce qui va faire permettre de récupérer une activité cardiaque et la personne, ou pas. C'est pour ça qu'il faut lancer très vite les massages cardiaques, et puis très vite la suite, etc. Donc, dans notre activité de secours, le temps est un élément essentiel.
Donc là, on a vu pour les personnes, pour un bâtiment, quelques
minutes. Pour un bâtiment, c'est pareil. Hein, c'est l'extension du foyer d'incendie et les dégâts qui sont causés.
Donc vraiment, en 1 minute, peut y avoir un gros changement, un bâtiment qui peut disparaître
Pas forcément, mais oui, les dégâts augmentent, bien sûr.
Donc pour 2020, vous avez donc ces 2 changements. Est-ce que vous avez d'autres nouveautés qui vont arriver cette année ?
Alors des nouveautés, il y en a toujours. Le SDIS est en perpétuelle recherche d'innovation et d'amélioration continue de ses pratiques et de sa façon de procéder. Donc bien sûr qu'il y a des évolutions et des nouveautés qui continueront à arriver.
Donc là, vous n'avez pas d'idée précise ?
Non, pas à l'instant. Mais déjà, les nouveautés, on a eu là tout récemment, on a refait la plateforme commune 15-18-112. Donc pour une meilleure gestion avec réellement dans la même pièce SAMU et pompiers. Et ça, c'est déjà une nouveauté. Qui permet une meilleure prise en compte des appels.
Merci Didier Pourré. Je rappelle que vous êtes le médecin-chef du SDIS de l'Ain. Après une courte pause en musique, nous irons au collège Moranda de Saint-Denis-les-Bourgs où les élèves font une pause lecture tous les jours. À tout de suite.
Thank you.
C'était The Fat Badger, un groupe électro-funk à retrouver samedi 25 janvier à 21h sur la scène de la Cave à Musique à Mâcon.
Radio B.
Séries, films, réseaux sociaux, avec toutes ces distractions possibles, difficile de garder du temps pour la lecture et surtout chez les jeunes. Pour essayer de sensibiliser un peu plus les élèves aux livres, le ministère de l'Éducation nationale encourage les écoles à proposer un quart d'heure de lecture pour les élèves. Au collège Moranda de Saint-Denis-les-Bourgs, ce temps dédié aux livres a été lancé avant même l'initiative du gouvernement. Le dispositif s'appelle Silence, on lit. C'est aussi le nom de l'association qui l'encadre. Et tous les jours, les jeunes et leurs professeurs prennent 10 minutes pour lire. Reportage.
Allez, c'est parti.
Tous les après-midi, entre 13h26 et 13h36, silence dans la classe et chacun sort un livre de son sac. Dans cette classe de 6e du collège Moranda, tout le monde joue le jeu et a les yeux fixés sur sa page. Tous les types de livres sont autorisés. Pour Flavio, c'est...
Un manga, My Hero Academia. C'est un super-héros qui essaie de devenir héros et qui a beaucoup de difficultés.
Tu lis ça en dehors des cours aussi ?
Pas tellement, de base je lis des romans, mais là c'est un ami qui m'a prêté le reste.
Et est-ce que ce temps de lecture, ça t'encourage à lire un peu plus chez toi ?
Un peu. Je lis beaucoup, donc... ça me permet de lire un peu plus et puis de finir des fois des livres.
Rania, elle, a choisi un roman.
Ça parle d'une fille qui se fait un peu harceler au collège puisqu'elle a embrassé un garçon. Et le garçon, c'est le frère de sa meilleure amie. Et du coup, elle se bat avec sa meilleure amie.
Et tu l'as trouvé où ce livre ? Tu l'as choisi comment ?
En fait, on devait le lire pour un exposé. Et moi, j'avais pas eu ce livre, mais c'est une amie qui m'a conseillé.
Tu lis ça en dehors aussi, ou c'est que pour le silence on lit ?
Que pour le silence on lit.
Silence on lit, c'est un moment qui se veut plaisant, mais les cours prennent parfois le dessus. On retrouve souvent le même titre entre les mains des élèves.
Cyrano de Bergerac. On lit en cours.
Donc t'es obligé de le lire ?
Oui.
Et toi, tu lis en dehors des cours ?
Un peu. Je préfère jouer à la play.
Difficile de rivaliser avec les jeux vidéo, internet et la télévision comme divertissement, mais ces quelques minutes permettent aux jeunes de découvrir un roman, comme Nassima qui n'a pas l'habitude de lire et qui apprécie Silence on lit.
C'est bien parce qu'on rate 10 minutes de cours et en vrai, c'est bien parce que je lis un livre que j'ai choisi moi-même et il me plaît.
Est-ce que ça t'encourage à lire en dehors des cours ?
Pas tellement. Enfin, après, ça dépend des personnes, mais moi, pas tellement.
Qu'est-ce que tu préfères faire à la maison ?
Regarder des films, être sur les réseaux, comme tous les ados, et c'est tout.
L'initiative a été lancée par la documentaliste du collège et par Nathalie Collas, professeure de français.
Ça nous paraissait vraiment important d'avoir ce temps de lecture. On ne savait pas vraiment comment leur donner du temps autre que la lecture imposée obligatoire.
Et qu'est-ce que vous constatez donc en 2 ans de silence on lit ? C'est quoi les effets sur les élèves ?
Déjà, c'est devenu une habitude. S'il nous arrive d'oublier, c'est les élèves qui nous rappellent. Ah, on ne fait pas silence on lit aujourd'hui. Et puis, on les voit évoluer un petit peu dans leur lecture. On voit qu'ils lisent des BD, des mangas, et puis après des livres. On voit du partage et de la transmission, des élèves qui se conseillent des livres, et c'est vrai que ça, c'est intéressant. Et puis, du calme en début d'après-midi pour une meilleure concentration ensuite, et ça, c'est vraiment bien.
Comment les professeurs ont réagi quand vous avez lancé l'idée ?
Ils sont assez ouverts. Après, je sais que tout le monde ne le fait pas systématiquement, mais c'est quand même une habitude qui est prise depuis maintenant 2 ans et ça se passe bien.
Et au niveau des élèves, quand vous l'avez lancé, il y a eu des personnes récalcitrantes ?
Oui, alors étonnamment, les plus grands ont été les plus récalcitrants. Ceux qui étaient en 3e cette année-là avaient moyennement aimé. Et puis finalement, ça se passe bien. On fait un retour chaque année. Et puis, ça se passe vraiment bien puisque les élèves disent qu'ils aiment bien ce temps de repos, ce temps de lecture. Il y en a qui nous disent faire semblant de lire aussi, mais quelque part, ils ont le droit. On a le droit aussi d'avoir un temps tranquillité en début d'après-midi. Puis, il y a toujours ceux qui n'aiment pas. Et puis, tant pis, c'est comme ça. Ils ont au moins la possibilité d'essayer.
Ces 10 minutes sont sur le temps scolaire, les cours de l'après-midi sont donc amputés de 3 minutes chacun. Un petit sacrifice qui est vite rattrapé par un avantage notamment.
Depuis la mise en place de Silence on lit, les débuts d'après-midi sont vraiment plus calmes. Les après-midi sont beaucoup plus calmes et les élèves le remarquent et font vraiment état de ce besoin de se poser un peu en début d'après-midi après la pause méridienne qui est parfois un peu agitée dans la cour.
Christelle Jérôme, la documentaliste aussi à l'origine de Silence on lit pour ce collège, voit d'ailleurs son CDI se remplir depuis 2 ans.
On a eu une explosion des prêts. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 2018 et 2019, ils ont augmenté de 50%. Donc c'est énorme. Je suis amenée à voir aussi des élèves qui ne poussaient jamais la porte du CDI, qui n'empruntaient jamais de livres. Et c'est vrai qu'ils viennent pour... emprunter régulièrement des livres. Donc on a dû, nous aussi, nous adapter et puis acheter pas mal de romans un peu plus courts pour intéresser tout le monde. Alors quand on parle de romans courts, c'est aussi des romans adaptés aux collégiens. Hein. Ce n'est pas des romans forcément plus faciles, mais en tous les cas qui les intéressent. Donc beaucoup de romans policiers. On a dû aussi investir dans les mangas parce que les élèves peuvent lire ce qu'ils veulent. Donc ils sont amenés pendant ces 10 minutes de lecture à choisir les livres qu'ils souhaitent lire. Et on a beaucoup d'élèves qui lisent des romans, mais aussi beaucoup de mangas, beaucoup de bandes dessinées. Les seuls ouvrages qu'on interdit sont les manuels scolaires, pour pas qu'ils fassent leurs devoirs pendant ces 10 minutes où ils sont censés s'évader et puis lire une histoire. Donc voilà, c'est la seule contrainte. Mais c'est vrai qu'ils empruntent beaucoup de livres. Donc nous, on a été amenés à enrichir un petit peu tout ce qu'on leur proposait au niveau du CDI.
La documentaliste constate même une amélioration des capacités de lecture chez les élèves.
C'est vrai que souvent, en début d'année, on voit des élèves qui ont du mal à se plonger dans la lecture. Et au lieu d'avoir 10 minutes de lecture, ils vont avoir parfois 2-3 minutes de lecture. Et c'est vrai que pour eux, c'est un peu court parce qu'il faudrait rajouter presque 10 minutes supplémentaires parce qu'ils commencent à peine à entamer leur livre, qu'il faut arrêter et se replonger dans le cours. Mais c'est vrai qu'au fil de l'année, je trouve qu'ils se plongent beaucoup plus rapidement dans la lecture du livre. Et on sent que c'est bénéfique aussi au niveau de la concentration.
Et est-ce que vous croyez que vous arrivez à changer un peu leur habitude à l'extérieur de l'école avec ces 10 minutes de lecture par jour ?
Alors ça, c'est pas forcément gagné. C'est vrai que quand ils sont bien accrochés dans l'histoire, je vois qu'il y en a qui me disent qu'ils continuent à lire en dehors. Mais il y en a parfois qui gardent leur roman que pour les 10 minutes de lecture et qui ont du mal à le toucher chez eux. Et je suppose qu'avec la concurrence des écrans, c'est pas toujours évident de rivaliser. Mais je ne désespère pas, il y en a quand même beaucoup qui s'accrochent.
Le directeur du collège, Raphaël Nicolet, souhaite pérenniser le dispositif.
On a d'abord testé ça sur le mois de juin 2018 pour voir si ça pouvait prendre, si ça apportait réellement des bénéfices à nos élèves. Et puis on s'est rendu compte très très vite qu'effectivement c'était le cas. Et en début d'année 2019, à ce moment-là, on a généralisé l'opération. On l'a fixé avec un vote au conseil d'administration pour établir justement cette action dans la durée.
Et donc au niveau du personnel enseignant, tout le monde était à peu près d'accord ?
Tout le monde était partant, effectivement, pour en tout cas faire l'expérience du mois de juin. Et puis ensuite, les bénéfices qui sont apparus a fini de convaincre les derniers collègues qui attendaient ces éléments pour s'impliquer totalement dans l'expérience. Dans certaines disciplines, je crois que les bénéfices rapportent largement plus que la perte de ces 10 minutes de lecture, notamment en termes d'expression, effectivement, de la langue française, de maîtrise, de calme. De temps de concentration, de mise en concentration plutôt des élèves, et que c'est une perte, mais pour un bien finalement.
En France, plus de 1000 établissements scolaires participent à Silence on lit, de l'école primaire au lycée. Dans l'apprentissage des enfants, la lecture est primordiale dès le plus jeune âge. Stéphanie Yanoudzi est neuropsychologue au CHU de Toulouse. Elle s'occupe principalement des enfants qui ont des troubles de l'apprentissage. Nous l'avons interviewée.
Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'études qui alertent sur les dangers des écrans sur les plus jeunes. On a notamment vu donc Michel Desmurger qui a lancé un livre « La fabrique du crétin digital », donc qui alerte sur ces dangers. Est-ce que vous constatez vraiment des effets néfastes des écrans sur les capacités d'apprentissage des enfants ?
En fait, le problème actuel, c'est les écrans à haute dose. C'est la fréquence à laquelle les enfants sont exposés aux écrans. Parce que les écrans en eux-mêmes, c'est pas toujours motif. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes, il y a des choses qui peuvent être pertinentes. Ça peut être un loisir comme un autre. Le problème, c'est que les écrans, c'est très vite addictif, entre guillemets, hein, dans le sens commun du terme. On a très vite envie de... Quand on est face à un écran, on a très vite envie d'y rester, en fait, parce que c'est prenant, ça c'est stimulant, etc. Et donc, les enfants ont tendance, les adultes aussi, mais là, on parle principalement des enfants, à s'y accrocher et avoir vraiment du mal à faire autre chose. Et donc, c'est ça, c'est là qu'est la difficulté. Après, sur les effets, c'est difficile parce que c'est impliqué avec plein d'autres choses. Donc, mais il y a quand même des études qui montrent qu'effectivement, les enfants qui regardent la télé avant d'aller à l'école, ou qui font des jeux vidéo avant d'aller à l'école, ont plus de difficultés d'attention. On sait qu'il y a des effets des écrans sur le sommeil. Donc les enfants qui font beaucoup d'écrans le soir peuvent avoir des endormissements qui sont retardés. Ils dorment plus tard. Et donc ils mettent plus de temps à s'endormir, même quand on les couche. Et donc effectivement, ça va jouer sur les apprentissages. Donc parfois de façon directe, parfois de façon détournée, les écrans peuvent avoir effectivement une influence sur les apprentissages.
Et donc pour revenir à la lecture, est-ce que c'est un outil particulièrement important pour développer les capacités d'apprentissage de l'enfant ?
La lecture, c'est aujourd'hui, dans notre société aujourd'hui, c'est indispensable de pouvoir lire. Et puis ça entraîne, tout à l'heure, le fait de, ben oui, on entraîne notre cerveau à apprendre, c'est plein de choses en fait. Lire, hein, c'est déchiffrer des lettres, c'est comprendre le sens qu'il y a derrière, c'est automatiser ce déchiffrage des lettres. Donc finalement, j'automatise que quand je vois ça, ça veut dire ça, etc. Et on est obligé de lire aujourd'hui, mais aussi de pouvoir lire vite, donc que ce soit automatique, et c'est vraiment indispensable. Et en plus, chez la personne qui fonctionne bien, ben, plus on lit, meilleur on est en orthographe, et plus tout est facile en fait dans les études, dans le quotidien. Et on en a beaucoup, hein, qui nous disent, des employeurs qui nous disent c'est horrible, il y a des fautes d'orthographe, j'ai même pas envie de regarder ça. Parce que ben, notre société est faite comme ça. Alors peut-être que notre société va évoluer, je sais pas quand, je sais pas dans combien de temps, mais aujourd'hui, il faut lire pour aller bien. Il y a beaucoup de personnes illettrées. Dans notre pays, hein, on est pas loin de 10% quand même, des chiffres quand même énormes, et c'est quelque chose de très très honteux pour des gens. Il y en a très peu qui osent l'avouer. Et puis la lecture, elle est partout. Vous avez des enfants à l'école, vous recevez plein de papiers en début d'année qu'il faut lire, vous devez vous repérer quelque part, il faut lire, enfin partout, dans les magasins, c'est vraiment le quotidien.
Et donc sur les initiatives qui sont développées pour encourager les enfants les plus jeunes à lire, il y a notamment le ministère de l'Éducation nationale qui a voulu développer dans pas mal d'écoles le temps de lecture obligatoire. Est-ce que vous trouvez que c'est une solution pertinente ?
Alors oui, moi je pense que il faut passer par là, mais ça passe aussi par développer des temps de raconter des histoires aux enfants, parce que il faut que les enfants prennent conscience de pourquoi c'est chouette de lire, qu'est-ce que ça m'importe de lire. En fait, parfois ils ont un peu perdu le sens, en fait. Donc il faut encourager ça, mais avec des lectures qui peuvent être le choix des enfants. On n'est pas obligé de lire de la grande littérature, même au collège. Hein. Oui, bien sûr, il faut apprendre un petit peu la littérature française, etc. Mais il faut aussi lire un livre parce qu'ils ont envie de lire. Peut-être parce qu'ils en ont entendu parler, peut-être parce que c'est lié à un jeu, peut-être qu'ils vont vouloir lire des mangas, mais en fait, lire des mangas, c'est lire. Donc, c'est important aussi d'avoir ça en tête, quoi. Peut-être qu'ils n'auront pas les mêmes lectures que nous, on a pu avoir, ou nos parents, mais que c'est important juste de lire, et de lire pour le plaisir, de retrouver le plaisir de la lecture. Donc, il faut réussir à l'amener comme un moment de plaisir.
C'était Stéphanie Yanoudzi, neuropsychologue au CHU de Toulouse. Et pour promouvoir les livres, samedi 18 janvier, c'était la 4e édition de la Nuit de la Lecture dans le département. Des animations pour petits et grands étaient organisées dans des bibliothèques et librairies. En 2016, 40% des Français se sont rendus dans une bibliothèque. C'est l'équipement culturel le plus populaire après les salles de cinéma, selon le ministère de la Culture. C'est d'ailleurs ce dernier qui organise ces nuits particulières. L'événement a pour but de rendre ces lieux de lecture plus accessibles au grand public. À la médiathèque Albert Camus de Bourg, par exemple, on pouvait regarder des courts-métrages et participer à une lecture à la lampe torche sur le thème des monstres.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
Les avocats sont encore en grève cette semaine. Vendredi dernier à 16h, lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire de Bourg, ils ont à nouveau montré leur colère face à la réforme des retraites. Depuis la grève du 6 janvier, le gouvernement a continué à les mettre à l'écart des négociations. Nous en avions parlé dans notre émission du 6 janvier dernier. Ils défendent leur système autonome de retraite qui est largement bénéficiaire et qui est menacé de disparaître pour être mis dans le régime universel. Les sapeurs-pompiers de l'Ain cherchent des bénévoles, alors n'hésitez pas à les contacter si vous êtes intéressés. À vous les Burgiens, c'est terminé. Retrouvez l'information dès demain matin avec la matinale de Camille. Bonne soirée sur Radio B.
Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Des personnes qui arrivent d'Afrique, des personnes qui arrivent des Balkans. Et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
J'ai marqué.
Bah, un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.